Ici Jocelyn Richard et je vous souhaite la bienvenue à Une note à la plume. Dans cette émission, je fais la lecture d'une nouvelle littéraire en y ajoutant quelques pièces musicales provenant de la scène indépendante. Aujourd'hui, Chacun fait son travail, une nouvelle de Raymond Bock et Une écume à la surface de Annie Perrault. Le coup de poing l'étourdit. Il n'a plus de préhension sur ce qui se passe autour et à peine en dedans. Le monde, une masse molle au ralenti. Des sons. On le lève du sol, le bascule et puis la gravité l'attire. Il chute, lent, sans que le vide cherche à aspirer ses viscères hors de son cul. Et quand il s'écrase, loin, loin plus bas, sa tête se fracasse sur une masse, une marche. Cette longue, grosse, gris foncée chose en béton au centre de l'agora, près des gosses des ascenseurs sur lesquels tout le monde s'assoit pour se montrer ou pour attendre les amis qui arrivent à l'université par le métro. Mais il n'y a personne où il s'écrase précisément. Entre deux filles qui sont là pour se montrer, elles pitonnent à leurs amis qui arriveront à l'université par le métro et sont en retard et elles sont superbes, c'est vrai, mais ils ne les voient pas. Sa tête se fracasse et son cou plie net sans parler du reste. De son oreille gauche, il écoute de près ce qui se passe entre ses omoplates et de sa droite, rien du tout. Il n'en a plus de droite. Son crâne est fracassé et la moitié de sa cervelle en tarte à la framboise. C'est d'une grimace audacieuse qu'il feint d'embrasser sa nouvelle voisine, qui se met bien sûr à hurler pour faire comme tout le monde. Mais il n'entend rien, il n'a plus d'oreille droite. Le garda posté au petit comptoir à l'entrée du métro arrive en courant, criant par-dessus les cris dans l'émetteur épinglé à sa poitrine. Celui sur la mezzanine, au deuxième étage, marche comme si de rien n'était. Il éteint son récepteur. Il va faire sa ronde dans les corridors du module de cinéma.
Of eternity. different scenery.
Au large, aussi loin que le regard porte, l'eau est noire et opaque. Il est difficile d'estimer les profondeurs de cette étendue d'eau, d'en percevoir les contours quand on se tient sur les berges. La jeune fille est là, debout sur les roches glissantes, les jambes incertaines à avancer tant bien que mal vers le lac si vaste qu'on dirait la mer. Comme si elle marchait sur des aiguilles pointues et des couteaux aiguisés, elle racle de ses pieds nus les arêtes tranchantes de ses rochers, tour à tour coupant et abrasif, puis doux et traître, avec leurs parois couvertes de mousse verte et gluante qui menace de faire perdre pied, lui briser les os. Elle entre dans cette eau froide qui soulage ses pieds brûlants, mais qui ne peut rien pour apaiser le chagrin qui lui noue le ventre. Des algues entortillées sur elles-mêmes flottent à la surface, se collent à ses chevilles puis à ses cuisses, à mesure qu'elle avance, yeux fixant l'horizon, bras en croix au-dessus de l'eau que sillonnent libellules et nuées d'insectes aux ailes fines. On dirait que cette avancée dans le lac est un sacrifice, une mise en scène, un tableau dans une chorégraphie à l'esthétique maniaque. Bientôt, elle a de l'eau jusqu'à la gorge, ses longs cheveux se mouillent et flottent autour de ses épaules. Ses orteils s'enfoncent dans le fond vaseux parsemé d'éclats de falaises et de fragments de coquillages. Elle n'arrive pas à voir ce qu'elle a sous les pieds. C'est à la fois minéral et aquatique, inerte et grouillant de vie, dans les interstices rocheux. C'est là, dans cette boue incertaine, dans les sédiments de milliers d'années qu'elle prend appui, se hisse sur la pointe des pieds meurtris, les muscles de ses mollets se contractent et se gonflent de sang. Et voilà qu'elle plonge dans l'eau froide et noire. Cercle concentrique et éclaboussure à la surface, une jeune fille se jette à l'eau, le corps déployé, en torpille. Une coulée, la tête première. Nuque inclinée, épaules basculées dans un mouvement vers l'avant, elle s'élance comme savent le faire les bons nageurs, en ondulation de la poitrine, des hanches, de ses jambes collées l'une contre l'autre, elle disparaît. Je vais traverser le lac.
Are unburdened by loneliness.
Elle refait surface quelques mètres plus loin, là où elle n'a plus pied. Après avoir épuisé doucement son souffle en le laissant filer par les narines, ambule tranquille. Elle nage en ligne droite. Ses bras fendent la surface. Elle mouline de toute la force de ses épaules, paumes comme des palmes, poignets souples aux mouvements réguliers, tandis que ses chevilles s'activent en flexion rapide. Ses battements de pied créent un sillage d'écume blanche derrière elle. « Je vais traverser le lac. » La phrase résonnait dans sa tête comme une obsession, une idée fixe. Elle s'y accrochait avec détermination, avec la rage au cœur, avec le ridicule espoir d'atténuer sa tristesse et sa déception en se lançant dans cette dangereuse traversée. C'était son premier chagrin d'amour. Il n'y avait pourtant eu aucune histoire d'amour qui l'avait précédée. C'était bien là le plus désolant. Comment avait-elle pu croire qu'un homme comme lui s'intéresserait à elle? Comment avait-elle pu espérer que le temps modifierait ses sentiments à son égard? Était-il possible que, pendant toutes ces années, ce qu'elle avait pris pour de l'affection ne fût au fond que de la pitié envers elle? Je vais traverser le lac. Il n'avait jamais été amoureux d'elle, peu importe avec quelle ferveur elle l'avait tenté de se convaincre du contraire, de guetter les signes, de se rendre belle et attachante et désirable à ses yeux. Elle avait attendu qu'il devine tout l'amour qu'elle lui portait et qu'elle n'avait pas su exprimer. Il n'avait rien vu, rien compris, rien espéré d'elle. Pour lui, elle ne sera jamais que cette pauvre fille du bout du lac, une amie qu'il retrouvait d'été en été depuis l'adolescence, une partenaire de kayak avec qui profiter des beaux jours de vacances, une confidente toujours à l'écoute, fascinée par ce monde de fils riches auquel elle n'avait pas accès et qui la faisait rêver. Elle restait là, muette, à l'écouter raconter sa vie en ville dans les beaux quartiers, les collèges privés fréquentés par les fils d'ambassadeurs, les voyageurs exotiques, les réceptions mondaines aux menus extravagants. Ses sœurs se moquaient d'elle quand, pour aller livrer la grosse commande de homards et de pétoncles à la villa luxueuse de l'autre côté du lac, elle enfilait ses talons hauts et une jolie robe qui mettait ses jambes en valeur. Oh, quelle conne! Elle espère toujours que son beau prince charmant l'invite à son anniversaire, parmi les riches et les puissants. Elle immobilisait la vieille camionnette du royaume de la mer, poissonnier de père en fille, à quelques mètres de la grille massive qui protégeait la résidence d'été des regards curieux, et s'aspergeait du parfum qu'il lui avait offert pour ses 16 ans, pour la remercier d'être venue à son secours l'été précédent quand le mât de son voilier s'était brisé au milieu du lac, et qu'elle l'avait fait monter à bord de son vieux kayak Pélican. Mais à quoi bon masquer cette odeur de poisson et de crevettes qui lui collait la peau à force de passer ses journées à donner un coup de main à la poissonnerie familiale, s'il ne la prend jamais dans ses bras, et se contente de la remercier d'un sourire et d'un gros pourboire? Le soir, au bord du lac, assise, silencieuse et pensive à regarder avec envie les feux d'artifice qui éclataient au loin, aux abords de cette villa où elle n'était jamais conviée, Elle se demandait s'il savait seulement à quel point elle souffrait de cet amour impossible. Je vais traverser le lac. Elle n'avait que cette phrase en tête et elle continuait d'avancer alors que le ciel changeait, de plus en plus orangé à mesure que le jour déclinait. La fatigue gagnait ses membres, elle avait soif et le sang pulsait à ses tempes violemment, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle revoyait le visage de cet homme qu'elle avait aimé et cela lui donnait le courage de poursuivre son mouvement vers l'avant. Et quand elle repensait à cette joie lumineuse dans son regard lorsqu'il lui avait annoncé tout à l'heure « Je suis amoureux », Je vais me marier à la fin de l'été. Si tu veux, je peux glisser un mot au traiteur pour qu'il t'embauche pour la réception. » Le sentiment d'avoir été floué sur toute la ligne lui donnait l'élan nécessaire pour nager jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Face à lui, face à cette joie, elle avait été incapable de prononcer un mot. Comme si on lui avait coupé la langue d'un coup de couteau sournois. Pas un son, pas un cri n'était sorti de sa bouche qui maintenant cherchait l'air au-dessus du lac chaque fois que sa tête pivotait. Dans ce mouvement instinctif et répété, regarder vers le fond du lac, regarder sur le côté, inspirer, souffler, recommencer, s'accrocher à ce souffle qu'il faut sans cesse renouveler. Mais ses gestes étaient de plus en plus désynchronisés. Elle avalait de grandes gorgées d'eau, elle se sentait lestée et attirée vers les profondeurs. « Je vais traverser le lac. » Elle y croit encore, mais il lui semble qu'elle n'avance plus, qu'elle est ballottée par le courant. Le lac devient remuant comme les pensées dans sa tête, de plus en plus confuses. Loin devant, elle aperçoit un mouvement, quelque chose de noir s'agite au-dessus de l'eau. Est-ce lui qui vient à sa rencontre? Son chagrin se retourne comme un gant. Elle se laisse porter par un espoir et elle nage encore, avec ce qui lui reste d'ardeur. Sa vision devient floue. Pour rester concentrée, elle se met à fredonner cette chanson qu'il chantait à tue-tête quand ils partaient ensemble en kayak. Elle riait quand il se mettait à danser avec sa pagaie. C'est elle, la sauterelle, la sirène en mal d'amour. Ses bras moulés au ralenti, les muscles de ses jambes brûlent. Quel est donc ce froid que l'on sent en toi? Elle nage sur le dos un moment pour se reposer, pour reprendre ses forces. Elle flotte, tâchant de se faire légère comme une écume sur la mer. Quand elle se retourne pour chercher du regard cette silhouette qui vient vers elle, elle se rend compte que ses yeux l'ont trompée, qu'il ne s'agit que d'un bout de bois à la dérive. Elle regarde alors devant, derrière, tout autour d'elle. Les rivages sont flous et si loin. Elle ne sait plus dans quelle direction nager et ses jambes sont de plus en plus faibles. Elle peine à garder la tête hors de l'eau. Elle ne sait plus très bien ce qu'elle fait là, au milieu de ce vaste lac, avec son cœur et ses tempes qui cognent, ses yeux qui s'embrouillent et cette étrange langueur qui gomme le ciel enflammé. Bientôt, il fera nuit, mais pour l'instant, le soleil est éblouissant. Il se coule dans la ligne d'horizon tandis que tout près d'elle, des oiseaux passent au-dessus de l'eau. Elle regarde comme anesthésiée, le cœur calme, ce long défilé de créatures de l'air dans le ciel maintenant si rouge qu'on dirait du sang. Et c'est cette vision de lumière et de légèreté qu'elle emporte avec elle, alors qu'elle hoquette une dernière fois, un mélange d'eau et de souffle coupé, de ravissement.
Wants her friends to know she cares, writes, I love you, pass it on. I love you, pass it on. My mother in her teens had a joy for all to see, brought a boy up to believe for a place where he's alone. Calls me on the telephone and says, will she love me when I'm gone? Will she love me when I'm gone? Will she love me when I'm gone? Will you love me when I'm
C'était Une écume à la surface de Annie Perrault. C'est paru dans la revue XYZ, la revue de la nouvelle, numéro 129. Juste avant, c'était Chacun fait son travail de Raymond Bock. C'est aussi paru dans la revue XYZ, la revue de la nouvelle, numéro 116. Vous avez entendu des pièces de Grim Grim, Jesse Williamson, Dakota Sweet et Quentin Sirjac et The Innocence Mission. Je vous invite à visiter le site web de l'émission unenotealaplume.com pour avoir plus de détails sur les artistes et les auteurs en vedette cette semaine. Ici Jocelyn Richard, c'était Une note à la plume. À la semaine prochaine.